À vous lire, on avait l'impression que la forme du dérangement me surprend un peu à propos des mathématiques, parce qu'on avait l'impression, donc, c'était en tout cas mon impression, que vous cherchez plutôt une forme d'arrangement, on va dire, dans les mathématiques, mais peut-être pas dans les mathématiques, j'allais dire concrètes, celles des courbes, des figures et des nombres, mais plutôt justement au niveau de la logique mathématique, quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça a été peut-être de votre part un effort relativement momentané, je dirais peut-être entre 60 et 63, où j'ai quand même l'impression à vous lire que vous cherchiez encore une fois dans, non pas dans la mathématique concrète, la géométrie, l'arithmétique, ou telle forme d'algèbre, mais encore une fois dans les grands modes de raisonnement, ce que vous appelez les modes de déduction, donc finalement la logique. Enfin, vous essayez de chercher une manière quand même d'organiser moins le discours musical lui-même, moins les déductions effectives de la composition, que finalement la réflexion du musicien. La réflexion du musicien. Et donc une manière pour le musicien d'essayer de ressaisir dans la langue naturelle, celle que l'on parle là, les enjeux proprement musicaux qui, elles, évidemment, sont... sont les enjeux proprement musicaux qui sont tout à fait différents dans leur... Alors, voilà, il m'a semblé quand même que, par exemple, vous citez... alors, il se trouve qu'en plus, c'est un peu amusant parce que c'est des gens qui sont eux-mêmes issus de cette école. Roger Martin, qui avait écrit un livre sur la logique contemporaine, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous avez fait plusieurs fois référence aussi à Louis Rougier, qui est un philosophe qui a fait des travaux philosophiques à partir de Poincaré. Vous avez aussi, dans un autre domaine, cité un physicien, Léon Brioulin, que moi j'avais connu par ailleurs par Philippot, parce qu'il avait fait une présentation de la théorie d'information dans les années 50, et qui était aussi un véhicule assez important pour un certain nombre de compositeurs pour réfléchir. Et puis une citation indirecte à un géomètre allemand, Pasch, mais qui s'avère en fait être cité par Rougier. Donc on avait l'impression, toutes ces citations se concentrent entre 60 et 63, me semble-t-il. Et donc, pourquoi, d'une façon, cette concentration plus momentanée, est-ce que... Parce que si je vous taquine, si
non,
on cherche
non,
par...
Non,
mais si je vais vous taquiner, attendez, la taquinerie va venir. Lorsque l'on cherche les concepts mathématiques que vous utilisez, j'en ai trouvé deux. C'est le PPCM et le PGCD.
À l'école primaire.
Exactement. Donc, il y a d'un côté les concepts mathématiques, c'est cela. Donc ça, c'était la taquinerie, pardonnez-moi. Et puis sinon, donc il y a les grandes références concentrées sur 60-63. Donc il y a quand même... il y a une histoire, enfin, dans vos rapports. À un moment donné, vous avez plus misé là-dessus, peut-être, et moins après. Enfin.
Oui, il est probable que ces années 60, c'est là où quand le pic, comment on peut dire, le sommet de Darmstadt, et c'est là où on en réfléchissait beaucoup, et on avait des échanges, disons, assez pointus, justement, sur à peu près tous les sujets. Et je pense que, vu rétrospectivement, c'était une façon de se rassurer, tout simplement. Parce qu'on avançait sur un territoire qui était au fond très, très peu exploré, encore très incertain, exploré d'une façon très incertaine en tout cas, et la confrontation, la comparaison avec d'autres modes de pensée qui étaient eux plus sûrs, plus assurés, était une façon d'occuper le terrain et d'essayer d'occuper le terrain justement avec des arguments, je dirais entre guillemets, inébranlables. Donc, je vois ça du reste avec... il y a une certaine naïveté à vouloir se rassurer de cette façon-là. Et en même temps, c'était, je crois, à cette époque-là, tout à fait indispensable, en tout cas, dans une certaine forme de raisonnement. Parce que c'était inattaquable. Il y avait une espèce de vérité scientifique qu'on appliquait à la musique. Et ce qu'on croyait la vérité scientifique, en tout cas... Et cette vérité, donc, devait répandre ses bienfaits sur la pensée musicale et la justifier en même temps. Voilà comment je peux expliquer ce recours qui a été si persistant pendant, en effet, vous avez signalé, c'était pendant 2 ou 3 ans, entre 59-60 et 63. Après, je m'en suis détaché beaucoup, c'est-à-dire que j'ai ce que je vous ai dit, je ne veux pas me répéter, mais je me suis rendu compte que ces parallélismes trop insistants n'étaient pas vraiment très, très producteurs de pensée proprement musicale, et que la pensée musicale avait toujours des accidents qui ne rentraient pas dans le système. C'est comme si vous établissiez, je ne sais pas, l'observation du monde suivant une certaine loi que vous avez établie, et que vous voyez tout d'un coup qu'une planète n'obéit pas. Bon, vous devez trouver une autre explication. Et puis, vous découvrez qu'une autre planète n'obéit toujours pas. Donc, vous trouvez une troisième explication. Et il y a un moment donné où vous arrivez à penser que toutes les explications que vous avez cherchées ne servent pas à grand-chose. En tout cas, vous ont servi sur le chemin, à parcourir votre chemin à un moment donné, mais que ce devient au contraire des charges inutiles à partir d'un certain moment. Ça m'intéresse toujours de lire au sujet, mais ça m'intéresse non pas pour faire des applications directes, mais au contraire pour réfléchir davantage dans ce qui me concerne directement et pour essayer d'adopter un autre mode de pensée. C'est ça qui m'intéresse. Et au fond, je cherche toujours une traduction qu'une translation. Il faut faire passer, disons, une façon de penser d'un domaine à un autre par une sorte de translation qui change du reste les données progressivement au point de les déformer totalement.